Vous êtes sur RTL.
Bisous.
Je considère qu'il est assez choquant qu'on ait en France un champion du monde comme Marc Bâtard, qui est quand même le recordman de vitesse d'ascension de l'Everest sans oxygène, depuis 30 ans. Et il n'est pas très connu en France. Et c'est un homme d'une très grande générosité.
Et cet homme d'une très grande générosité qui mérite d'être encore plus connu, nous l'avons dans notre studio, c'est Marc Bâtard. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bienvenue.
Bienvenue, vous êtes alpiniste et peintre et vous êtes lancé un défi absolument incroyable. En quelques mots, quel défi vous êtes lancé pour vos 70 ans ?
De refaire l'Everest à 70 ans pour faire plaisir à mon ami brésilien qui ne pourra pas aller jusqu'au bout parce qu'il a beau être jeune et sportif et il n'a pas malheureusement la physiologie de pouvoir faire l'Everest sans oxygène. Et...
Donc l'idée c'est de le faire pour les 70 ans, déjà c'est un bel âge, sans oxygène c'est ça, et en un temps record ?
Non, 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 vous allez prendre votre temps là. Non, 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 là ça va, je ne peux pas, non, non, ça va. Mais par contre, je le ferai en 3 ou 4 jours avec une cordée magnifique.
Vous allez nous raconter ça.
On va découvrir.
On veut tout savoir.
On a hâte de savoir comment, avec qui, comment vous vous préparez. Et puis aussi, ce qu'est ce projet, ce défi baptisé l'Everest en partage. Récit à venir sur RTL.
Jusqu'à la fin de Renault.fr.
RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Gravir l'Everest pour fêter ses 70 ans et le gravir sans oxygène, c'est le défi génial de notre invité Marc Bâtard. L'alpiniste va nous raconter sa future aventure. Et tout de suite, on écoute Renaud sur RTL, les animaux.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avant l'Everest, ce sont les gorges de la Sioule qu'il faut gravir. Marc Bâtard ne vit pas loin, il connaît bien cet endroit.
La curiosité est un vilain défaut.
Cette paroi est un bon terrain de jeu pour lui et pour celui qui l'accompagnera en haut de l'Himalaya en 2022.
Sur RTL.
Ce projet de gravir l'Everest sans oxygène à 70 ans lui permettra de financer un autre projet tout aussi important à ses yeux, une école de guide de très haute montagne.
Une grande aventure dans la curiosité, un grand destin aussi, celui de l'alpiniste Marc Bâtard. Il se prépare à gravir l'Everest pour ses 70 ans. Ce sera donc en 2022, c'est ça Marc ? Vous l'avez déjà vaincu deux fois l'Everest, c'était quand ?
80...
Et combien ?
88, donc c'est la première fois où j'ai fait le sommet.
Ouais.
Donc mon but était, je ne suis pas tellement pour les records, mais il s'est trouvé que j'avais envie d'être le premier à le faire en moins de 24 heures et sans oxygène. Et j'ai réussi après 3 tentatives. Et suite à ça, je me suis découvert une résistance que je ne me connaissais pas complètement. Donc après, j'ai fait un remonté à l'Everest pour un projet dont je n'ai pas pu aboutir. En fait. Je voulais bivouaquer sans oxygène et faire un autre 8000 à côté le même jour. Mais pour des raisons de sécurité, j'ai renoncé au sommet même de l'Everest.
C'est-à-dire que c'est compliqué de dormir sur l'Everest quand on sans oxygène, en fait, vous pouvez...
Pour certains, ouais. Pour certains. Mais moi, je sais que je pouvais vraiment le faire parce que je me connais bien. J'ai la chance d'avoir une physiologie très adaptée et un mental à tout ça. Mais pour des raisons de sécurité, j'avais renoncé au bivouac parce que sinon, j'aurais été comme notre célèbre Herzog avec des doigts gelés, ce qui n'est pas tellement un bon exemple.
Donc, cet Everest, vous le gravissez 22h29 minutes, c'est ça ?
Oui.
Et pour bien prendre conscience de ce que ça représente, il y a une cordée qui était partie, on va dire, normalement, c'est-à-dire avec oxygène et 3 jours avant.
Oui.
Et vous êtes arrivé combien de temps avant ou après ?
À peu près une demi-heure, à peu près en même temps.
À peu près en même temps. Vous avez mis 48 heures de moins.
Voilà, oui, même plus. Ouais.
Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça fait de grimper l'Everest comme ça, de le gravir, Marc Bâtard, sans oxygène ? Qu'est-ce qu'on ressent ? À quel niveau ça devient compliqué ? Quels sont les moments les plus difficiles dans cette ascension ?
Ben là, pour répondre à votre question, c'est une longue histoire. Je ramènerai à mon premier livre qui s'appelle Le Sprinter d'Everest pour raconter en détail. Parce que j'avais réussi à la 3e tentative, donc j'étais déjà épuisé, j'étais déjà fatigué. Parce que si j'avais eu la chance, comme Kylian Jornet par exemple, d'avoir une trace préparée, j'aurais pu réussir à ma première tentative en 14 heures à peu près.
Votre donc corps ressent quoi ?
Alors, dans la partie finale qui est la plus difficile, c'est un peu comme
une oppression. Vous avez les poumons serrés, moi j'imagine ça. On a du mal à respirer.
En fait, c'est une sorte de calvaire.
Calvaire.
Parce qu'il faut faire, il faut être un petit peu masochiste pour faire ce sport à ce niveau-là. Et dans la partie la plus difficile, donc dans les quelques heures qui ont fini l'ascension, j'étais dans un état de fatigue très 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 poussé. et j'avançais tous les quarts d'heure, je m'arrêtais, je vomissais, je repartais. Et en fait, physiologiquement, il se passait un phénomène, et c'est ce que m'a expliqué la professeure Véronique Billat, qui me suit dans mon projet maintenant. Eh bien, il se passait à peu près physiologiquement à peu près la même chose que ce qui peut se passer, ce qui se passe, pardon, dans les muscles et dans le corps d'un coureur de 100 mètres. Sauf que moi, ça se reproduisait sur des heures et des heures.
Et vous racontez cette histoire, enfin elle est racontée par Nathalie Lamoureux dans ce livre Marc Bâtard, L'Everest en partage, c'est publié aux éditions La Fontaine de Siloé.
Et ce n'est que le tome 1.
Quel joli nom de maison d'édition. Est-ce que vous vous entraînez beaucoup pour un exploit comme celui-là? Là vous êtes en train de préparer l'Everest pour 2022. Est-ce que ça veut dire que dès aujourd'hui vous continuez, vous allez vous préparer à monter aussi haut?
Oui, il s'est trouvé que j'ai arrêté la montagne à peu près 20 ans, je ne l'ai jamais quitté, mais l'idée m'est venue du Brésil et le jour où j'ai décidé de revenir à l'Everest, ben j'ai commencé à avoir une meilleure diététique, donc j'ai commencé à perdre 10 kilos. Là, j'ai pas encore grand-chose à perdre, mais j'ai encore un petit peu à perdre. Et je m'entraîne, en fait, c'est l'hygiène de vie. Donc le plus je fais de la montagne, mieux c'est. Mais actuellement, je suis surtout à la recherche de partenaires pour cette école de guide, donc je pense qu'on va en parler. Et puis, bien sûr, pour financer ce projet, parce que c'est quand même un gros budget. Mais d'ici quelques semaines, dès qu'on aura plus de sponsors, je pourrai faire plus d'entraînement.
Moi, j'ai envie de savoir, Thomas, dans un instant avec vous, Marc Bâtard, comment ça se passe une ascension? Vous êtes combien? On parle souvent de premier de cordée, mais alors le dernier fait quoi? Puis alors, c'est quoi celui que fait celui du milieu? Bref, on veut tous les secrets de réussite de cette future ascension dans un instant sur RTL. Reste avec nous, les curieux.
Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura a créé Personnage pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leurs familles. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans des maisons de vie où ils seront soutenus et accompagnés. Et pour soutenir Personnage, eh bien rendez-vous donc dès maintenant sur perse-neige.org.
Chez Total.
RTL.
Voici le camp de base d'Adventure Consultants.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voici Angorji, tout le monde. Il est ce qu'on appelle un Sirdar, le Sherpa principal.
Il y est monté trois fois avec.
D'accord, c'est noté.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a un peu de courant d'air, mais n'oubliez pas qu'en quatre coups de vent, on a la même vue qu'avait George Everest.
Gravir l'Everest pour ses 70 ans, c'est le défi de notre invité, l'alpiniste Marc Bâtard, qui détient toujours, je le rappelle, le record de l'ascension la plus rapide, 22 heures et 29 minutes, par le versant népalais. Ça veut dire quoi? C'est plus difficile? Il y a côté Tibet et côté Népal, c'est ça?
Oui, il y a deux versants où il y a deux voies normales, le versant népalais, donc j'ai toujours le record sans oxygène. Bon, le record a été battu, mais avec des bouteilles d'oxygène, ce qui n'est pas officiel. Et côté tibétain, il y a aussi une voie normale qui n'est pas très dure techniquement. C'est là où je vais aller en 2022, parce qu'il y a moins de risques objectifs et l'ascension est plus rapide parce qu'on part de plus haut. Donc c'est plus finalement c'est plus facile de le faire par le côté tibétain.
Quand vous dites j'y vais, alors vous n'êtes pas seul, il y a une cordée. Combien êtes-vous à préparer ce défi?
Alors justement, suite à votre question de tout à l'heure, dans ce projet, il y a trois cordées quelque part. Il y a la cordée d'alpinisme, que je dirige avec deux amis que j'ai choisis, qui sont deux garçons extraordinaires. Passant Nourou Sherpa, qui a fait 13 fois l'Everest avec de l'oxygène, mais là, cette fois-ci, il accepte de le faire sans oxygène. Et puis, Mohamed Ali, qui a fait deux fois le K2 sans oxygène, il a fait le Nanga Parbat en hiver. Donc, j'ai une cordée très, très solide. Mais contrairement à ce qu'on pense en général, ces gens n'ont pas assez de technique. Parce que nous, les Occidentaux, eh bien, on emploie ces gens-là surtout pour faire des portages ou pour rafistoler
vos bagages.
Et là, depuis qu'ils sont avec moi, eh bien, je leur apprends plein de choses. C'est-à-dire que moi, c'est mon échange.
Qu'est-ce que vous leur apprenez, par exemple? Comment on gravit quand on n'a pas votre physiologie, les vrais sans oxygène? Quels sont les conseils que vous donnez avec vos Sherpas?
Alors là, on le verra sur place parce qu'ils sont tout à fait capables de le faire sans oxygène, mais ils ont toujours pris de l'oxygène. Enfin, Passang a toujours pris de l'oxygène pour la sécurité, parce que son rôle, c'était d'amener des clients au sommet de l'Everest. Donc, il prenait de l'oxygène par sécurité. Là, il vient avec moi sans oxygène. Donc,
comment il s'entraîne? Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil?
Non, on ne fait pas rien de spécial, sauf qu'on respecte l'acclimatation. Avant d'aller à l'Everest, on fera une acclimatation de 15 jours, 3 semaines. Et au moment où on se sent bien, où on écoute son corps et on est apte, on y va.
Donc, on peut tous le faire, alors, finalement?
Bien sûr, il suffit d'y aller doucement et surtout bien s'entraîner et suivre surtout les phases d'acclimatation. Mais je reviendrai à trois cordées, parce que c'est très important. Il y a cette cordée qui va me permettre de réussir cet Everest à 70 ans. Donc je ne suis pas seul. Donc moi, je leur transmets ma technique. Comme là, à Noël, on va aller grimper comme l'hiver dernier. On va aller faire une ascension hivernale à Chamonix où je leur apprends de la technique.
Alors ça veut dire que vous êtes attachés concrètement pour que nous, on voit vraiment à quoi va ressembler votre ascension. Vous êtes accrochés les uns aux autres, c'est ça?
Oui.
Il y a un premier, un deuxième, un troisième.
Voilà.
Premier de cordée, dernier de cordée. Quels sont les rôles?
Les deux secondes cordées. Donc le premier de cordée a le rôle d'ouvrir la voie et de faire ce qu'il y a de plus dangereux, en fait, hein, dans une voie difficile.
C'est-à-dire...
Et les deux autres sont là pour assurer et porter une partie de l'équipement.
Pourquoi vous dites qu'il y a trois cordées?
Non. Ah oui, il y a trois cordées. Donc la cordée d'alpiniste où je suis pour faire l'Everest.
Vous
après, il y a une cordée d'amis qui nous soutient, dont M. Frédéric Thiriez, Emmanuel Petit, Nicolas Hulot. Enfin, il y a toute une équipe de soutien, d'amis. Et puis une cordée qui est très très importante à ce jour, c'est la cordée qui nous aide à trouver le financement pour aller là-bas, parce que ça demande pas mal d'argent. Mmh. Et comme j'ai voulu absolument, en refaisant l'Everest, sachant que c'était vraiment un projet qui allait intéresser le grand public, eh bien, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire ce projet d'école, de guide de très haute montagne, parce qu'il y a vraiment une nécessité de faire diminuer les accidents en montagne.
Moi, je suis toujours sur la montagne avec vous, sur l'Everest. Vous êtes premier de cordée, c'est vous qui ouvrez la voie. Vous dites que c'est un gros boulot. Ça veut dire quoi, ouvrir la voie sur une montagne? Moi, j'en ai jamais fait, je ne sais pas.
Oui, alors sur l'Everest, c'est facile, parce que c'est quand même la voie normale, c'est très balisé, donc il n'y a pas... Mais quand on est sur des itinéraires, comme j'ai amené mes amis l'année dernière sur un itinéraire difficile dans le massif du Mont Blanc, là, il y a un itinéraire qui est compliqué. Donc là, je leur ai appris comment on s'assurait, comment on progressait dans des...
Comment vous assurez d'ailleurs, alors? Comment on s'assure, comment on se protège, comment on fait pour ne pas tomber? Quel sera votre plus grand ennemi en fait sur l'Everest?
Ben, c'est de savoir continuer à faire ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, savoir renoncer au moment où il faut renoncer.
Sentir qu'on a dépassé
ses limites. Parce qu'on parle beaucoup de la montagne, souvent quand il y a les accidents, et on ne parle pas assez de la beauté. On ne respecte pas assez cette nature qu'est la montagne. Encore dernièrement, la semaine dernière, il y a quand même deux guides de haute montagne qui sont morts, il y a deux moniteurs de ski italiens qui sont morts, donc des professionnels qui meurent en montagne. Il y a un problème. Et moi, ce problème, je le connais depuis très très longtemps. Et donc, ce projet de faire l'Everest à 70 ans, eh bien, c'est vraiment le projet qui me permet de trouver les moyens de faire cette école pour faire progresser la sécurité à montagne. Et ma troisième cordée, justement, c'est ce que j'appelle un peu la caravane de l'Everest, parce qu'on a une très très belle caravane, une belle voiture, et on se promène un peu. Et là, on sera à Chamonix pendant 15 jours pour, d'une part, pour montrer qu'on a des sponsors, parce que c'est très bien, mais aussi vraiment communiquer sur la sécurité.
Vous restez avec nous, Marc Battard. Le livre que Nathalie Lamoureux vous consacre, le titre c'est L'Everest en partage, tome 1. Ça veut dire que l'histoire est appelée à continuer, on l'a bien compris, grâce à vous. Vous allez nous en dire plus sur cette école de haute montagne sur RTL. À tout de suite.
RTL. Il est 6h sur Radio Nomade et bienvenue en Seine-Saint-Denis, là où sont enterrés tous les rois de France et les rêves de tas de gamins des alentours. Et ce matin, nous recevons un invité exceptionnel, Max.
Et oui, Ben, on reçoit Samy Diakaté, 26 ans, habitant de la Courneuve, et bientôt le Renoir le plus perché du monde.
Et oui, car il va être le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
T'as besoin de preuves? D'être sûr que tu peux compter sur ton mec? Eh ben, je vais le monter, ce putain d'Everest.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait de L'Ascension, un film avec Ahmed Silla qui raconte le défi que s'est lancé un jeune de banlieue qui décide de gravir l'Everest. Et c'est une histoire vraie. Nous aussi, on raconte une histoire vraie dans La Curiosité, un autre défi. L'Everest aussi avec Marc Battard qui veut aller fêter ses 70 ans au sommet de cette gigantesque montagne sans oxygène. Et d'ailleurs, ce projet, il est important pour vous parce que ça vous permet de financer une école de haute montagne. C'est pour apprendre aux jeunes la montagne, c'est ça, sa beauté et ses risques aussi.
Oui, les jeunes et les moins jeunes, surtout les professionnels, qui, par manque de formation sur la prévention et l'anticipation des risques, a fait qu'il y a beaucoup trop d'accidents, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup trop de professionnels qui ont des accidents avec des clients en montagne. Donc il y a vraiment...
Pardon, je vous écoute.
Il y a vraiment un besoin de cette école que j'avais essayé de faire il y a 30 ans en arrière. Je n'avais pas réussi parce que dans la profession des guides et moniteurs de ski, il y a une certaine omerta Et oui. Donc, et donc vous, les médias, vous êtes vraiment quelque chose de très très important pour faire passer des messages. Parce que, oui,
pardon. Ces fameux dangers justement que dont vous parlez, auxquels on ne fait plus attention aujourd'hui, c'est lesquels? En quoi, même des professionnels qui périssent dans la montagne, comment ça peut s'expliquer?
Souvent, vous m'appelez quand il y a des accidents de montagne, et je me souviens d'un jeune journaliste du Monde qui m'avait appelé suite à une catastrophe où 18 Sherpas sont morts dans la cascade de glace, et ils étaient soi-disant formés. S'ils avaient été vraiment formés, il n'y aurait jamais eu cette catastrophe. Donc ce jeune journaliste du Monde, j'avais dit oui, vous m'appelez pour des accidents, et du coup ce jeune journaliste m'a dit mais si vous avez des choses à dire. Alors du coup il a fait un super article qui fait référence maintenant, c'est la montagne, enfin c'est l'Everest, c'est une boîte Afrique, et justement ce film dont vous avez passé un extrait tout à l'heure,
l'ascension,
c'est un très très bon film, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il retrace une histoire vraie, mais n'empêche que ça fait les choux gras au business de la montagne, aux agences qui prennent pas trop de risques dans les agences et qui malheureusement permettent à plein de Sherpas et de mourir en montagne.
Qui vous avez formé avec cette école?
Ben on va former des professionnels, c'est un complément de formation, je dirais.
D'accord. Voilà. Parce que les guides de haute montagne français qui font le Mont Blanc, ils sont formés déjà.
Ben oui, mais ils sont formés. Mais la preuve, la semaine dernière, il y a deux guides qui se sont tués. Donc là, j'ai pas le temps de vous raconter comment ça s'est passé. Mais s'ils avaient été encore mieux formés, il y aurait peut-être pas eu cet accident, malgré que ce soit des guides, des jeunes guides. Et j'ai tout le respect pour eux parce que c'était vraiment des très très grands alpinistes. Mais ils avaient beau être forts, ils sont morts tous les deux.
Mais il manquait de connaissances de terrain ou de technique. Qu'est-ce qui manquait à ces jeunes guides qui ont péri?
Là, on peut pas expliquer ça à la radio maintenant. Ce serait beaucoup trop long. Mais ils étaient encordés alors qu'ils auraient pas dû avoir la corde. Donc il y en a un qui est tombé. On ne sait pas pourquoi.
Il entraînait l'autre.
Et si on leur avait vraiment enseigné, vous avez beau être fort, eh bien, alors ça c'est un des exemples de lacunes qu'il y a dans la formation.
Et c'est aussi pour rendre hommage à un immense alpiniste que vous adorez, c'est Lionel Terray. Il vous a fait rêver dans les années 50. Pourquoi vous voulez lui rendre hommage? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Parce que c'est lui qui m'a donné la vocation. Et puis, justement, ces deux jeunes guides qui se sont tués la semaine dernière, eh bien, s'ils avaient suivi les exemples de Lionel Terray, Lionel Terray s'est tué comme ça. Lionel Terray s'est tué dans une paroi très difficile avec un jeune guide. Et une fois qu'ils étaient sortis dans les choses faciles, eh bien, ils sont tous les deux tombés au pied de la paroi, encordés, alors qu'ils auraient dû être décordés.
Alors, votre prochaine préparation là, pour l'Everest, c'est quel sommet? Je ne sais pas, j'imagine, vous disiez cet hiver au-dessus de Chamonix, vous allez faire quoi?
Bon, déjà, on va aller passer le Noël au sommet du Mont Blanc, fait 4 ou 5 jours d'ascension avec mes deux compagnons de cordée, donc avec un gros sac, avec du matériel, par un itinéraire très très long pour éviter les crevasses, donc pour vraiment écouter la montagne en fait, la respecter, donc passer par des arêtes, on va éviter toutes les pentes de neige et on va faire des grandes arêtes pour aller au sommet du Mont Blanc, bivouaquer au sommet du Mont Blanc à Noël.
Elle fait du bruit la montagne, Marc Battard? Ça ressemble à quoi le bruit de la montagne?
Non, c'est souvent très silencieux. Bien sûr, entre les tempêtes, les chutes de Sérac, effectivement, mais en général c'est silencieux.
Merci beaucoup. Merci. Marc Battard, on vous souhaite bon courage et joyeux anniversaire et joyeux défi en tout cas à vous. Et puis si on veut en savoir plus sur votre aventure, on peut lire le livre de Nathalie Lamoureux, Marc Battard, l'Everest en partage. C'est aux éditions La Fontaine de Siloé. À bientôt.
Fin de cette curiosité.